Bienvenue à Comprendre son chien. Mon nom est Audrey Michel et je suis une amoureuse des animaux. Plus particulièrement, je me passionne pour la science comportementale. Avec ce podcast, je veux aider des gens comme moi, c'est-à-dire qui rencontrent des défis face au comportement de leur chien et qui veulent développer une relation plus harmonieuse avec lui. Le tout sans jugement et avec plaisir. Partager ma vie avec une chienne réactive a transformé la personne que je suis. C'est pourquoi je te partage ici mes réflexions et mon expérience, autant mes échecs que mes réussites. Parce que toi et ton chien, vous méritez de vous comprendre. Allô, allô! Cette semaine, j'ai envie de parler d'une thématique qu'on n'associe pas nécessairement directement à l'enrichissement. Parce que je te rappelle que l'enrichissement, c'est la thématique de cette saison-ci. Et il s'agit de la sécurité et de la sûreté. De quoi on parle quand je mentionne sécurité et sûreté? Eh bien, je vais encore une fois emprunter la définition qui est faite dans le livre « Canine Enrichment for the Real World », qui est le livre qui a inspiré cette saison-ci. Et encore une fois, c'est une traduction libre. Quand on parle de sécurité, on parle du fait d'être protégé des choses qui pourraient être, par exemple, potentiellement dangereuse, qui pourrait être mauvaise pour le chien, par exemple. Et quand on parle de sûreté, bien là, on est plus au niveau de se sentir protégé. Donc, il y a vraiment une distinction qui est faite entre les deux termes. La sécurité, c'est vraiment au niveau le chien, il est protégé. La sûreté, c'est le chien, il se sent protégé. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Mon chien peut être en sécurité, mais pourtant, il peut ne pas se sentir en sécurité, même si dans les faits, il l'est. La sécurité, par exemple, c'est d'aménager sa maison pour que, justement, elle soit sécuritaire pour son chien. On pense en anglais au terme « dog-proofing », qui est un emprunt à « baby-proofing ». Quand on a un bébé, on veut aménager sa maison pour qu'elle soit sécuritaire. Donc, on va mettre, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais les protèges, les espèces de petits trucs en plastique qu'on met dans les prises de courant pour empêcher que les enfants se mettent les doigts dedans. On va mettre des barrières pour pas que notre bébé déboule les marches, par exemple. Bien, c'est le même principe avec un chien. On va, par exemple, enlever toute nourriture qui peut être dangereuse, comme le chocolat, de la portée de notre chien. On va penser à cacher nos poubelles. moi, je vais une confession à vous faire. Moi, j'ai mis un latch sur ma poubelle de cuisine parce que j'ai pas une poubelle qui peut se rentrer en dessous de l'évier, par exemple. Donc, on a mis un latch sur la poubelle parce que là, notre chien avait découvert comment ouvrir le dessus de la poubelle. Donc, on a installé ça pour l'empêcher d'ouvrir la poubelle. Donc, ça, c'est des actions qui relèvent de la sécurité. Mais quand on parle de la sûreté, c'est plus davantage de créer une relation de confiance avec son chien, autant avec nous qu'avec l'environnement, qu'avec les autres êtres humains, avec son milieu de vie, dans le fond. Et pourquoi la sécurité et la sûreté, ça rentre en dessous de l'ombrelle de l'enrichissement? Je vous l'ai dit, l'enrichissement, souvent on pense à des choses très spécifiques, mais en réalité, quand on prend une définition plus large, qui était la définition que je vous avais présentée en début de saison, qui est de comprendre les besoins de notre chien pour structurer un environnement pour notre chien qui va être en mesure de satisfaire ces besoins-là, bien, la sécurité et la sûreté, ce sont des besoins fondamentaux chez le chien, en fait, chez l'être humain aussi. On n'a rien qu'à penser à la pyramide de Maslow. Le premier étage de la pyramide de Maslow, c'est les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Et la deuxième strate de la pyramide de Maslow, eh bien, c'est la sécurité. Donc, si c'est vrai pour nous, l'être humain, pourquoi ce ne serait pas vrai également pour nos chiens? Et là, je vais me concentrer davantage sur l'idée de la sûreté plutôt que la sécurité, parce que, comme je l'ai dit, la sécurité, c'est vraiment d'empêcher son chien de se retrouver dans des situations qui pourraient être potentiellement dangereuses. Quand on veut développer l'optimisme de notre chien, comme quoi il est en sécurité, qu'il n'a pas besoin d'être craintif, par exemple, mais comment on s'y prend? Bien, il y a différentes choses que je mentionnerais. La première chose, je dirais, c'est de réduire le stress environnemental. Je vous donne un exemple tout simple. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait avec Lisa Longo, où est-ce qu'on a parlé de la hiérarchie de least intrusive, minimally aversive, qu'on peut traduire par le moins intrusif, minimalement aversif. Et on parlait que, justement, au bas de l'échelle, il y avait une chose qui était la gestion de l'environnement. Et un exemple que j'avais donné de ma situation personnelle, c'était j'ai appliqué une pellicule au bas de mes fenêtres. Cette pellicule-là a comme propriété de brouiller la vue. Donc, Taga n'était plus en mesure de voir les écureuils à l'extérieur. Et ça, bon, on pourrait débattre de est-ce qu'il s'agit d'un bon stress ou d'un mauvais stress. Peu importe, ça restait un stress et je voyais que c'était difficile pour elle également de décrocher. Et si on a un chien, par exemple, qui va japper après les passants dans la rue, que ça va le préoccuper beaucoup, justement, ce qui se passe à l'extérieur, bien ça, ça peut être une façon simple de réduire le stress environnemental que notre chien vit. D'autres idées, par exemple, si vous avez un chien qui réagit à la sonnette beaucoup, bien, on peut demander à nos invités, par exemple, de ne pas utiliser la sonnette, de cogner à la place, ou si votre chien réagit également, bien, moi, j'ai une amie qui, elle, très brillamment, a mis une petite affiche qui dit simplement « Ne cognez pas à la porte, ne sonnez pas, et textez-moi plutôt à ce numéro-là, je vais venir vous ouvrir. » Donc, c'est un moyen. On n'a pas une sonnette qui va partir à n'importe quel moment, qui va justement ajouter au stress de notre chien. Et comme je vous dis, c'est pas nécessairement un mauvais stress, parce que peut-être que le chien réagit parce que c'est de l'excitation, qu'il sait que ça l'annonce la venue de quelqu'un. Ou ça peut être un stress justement d'un chien qui n'aime pas avoir des étrangers dans sa maison. Mais peu importe, le fait de prendre cette stratégie-là, ça aide à réduire le stress. Bien entendu, si on veut être capable éventuellement d'utiliser la sonnette, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, qui peuvent être faites pour régler cette problématique-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je me lancerai pas là-dedans. Là, j'ai donné deux exemples qui peuvent être un stress, qui peut être soit positif, soit négatif, selon le chien, hein, japper à la fenêtre parce qu'il y a de l'action ou parce qu'il y a une sonnette. Ça peut, dépendamment de l'interprétation du chien, ça peut être un stress qui est positif, ça peut être un stress qui est négatif. Mais un stress qui est généralement toujours négatif, c'est lorsqu'on a une maisonnée avec plusieurs chiens et que les chiens vont faire de la protection de ressources. Là, on va tomber à la fois, oui, on est dans la sûreté, mais là, on va être dans la sécurité également. Bien, ça va être, par exemple, de dire « je laisse aucun jouet traîner par terre parce que là, j'ai un danger qu'un chien prenne possession du jouet et fasse la protection. » Ça va être, par exemple, de dire « ben, je vais nourrir mes chiens dans des pièces séparées comme ça. » Ouh, il va y avoir moins de tension autour des heures de repas. Donc, ça peut être des stratégies comme ça qui, dans ce cas-ci, ben là, on parle de sécurité également parce qu'on a un danger réel qu'il peut y avoir une bagarre de chiens si on ne gère pas la situation. Mais justement, en gérant la situation de cette façon-là, mais on permet de apaiser le stress, par exemple, que le chien qui est victime des attaques, il ne sera pas sur le qui-vive parce qu'il est dans une pièce qui est séparée, donc il peut avoir l'esprit tranquille, manger tranquillement. Donc, ça, ce sont des exemples de comment on peut réduire le stress environnemental de notre chien. J'ajouterais, et je n'irai pas dans les gros détails par rapport à ça, mais si tu as un chien qui est particulièrement anxieux et malgré les différentes stratégies que tu mets en place, ton chien continue de démontrer de l'anxiété par rapport à ce qui se passe dans l'environnement, ça serait intéressant d'avoir une discussion avec ton vétérinaire par rapport à la médication. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de stigma aussi, je dirais, autour de l'utilisation de la médication à des fins comportementales chez le chien, chez l'humain aussi d'ailleurs. Et souvent, ce que je constate, beaucoup, ce que j'entends beaucoup de professionnels dire, c'est que le public, on a l'impression que la médication, ça devrait être le dernier recours. Alors que souvent, la médication, c'est l'étape, c'est le chaînon manquant pour vraiment être capable de faire une différence dans la vie de notre chien et dans son processus de modification comportementale. Parce que justement, quand on est capable d'abaisser cette anxiété-là par rapport aux différents déclencheurs dans l'environnement ou une anxiété plus généralisée, bien ça, là, ça permet de mettre le chien dans un état où ce qu'il est capable d'apprendre. Parce que quand on a un chien qui est trop stressé, bien on n'est pas en mode apprentissage. Donc, c'était une petite aparté, là. Mais je pense que c'est intéressant de considérer que donner une médication à son chien, ça peut être une forme, en quelque part, d'enrichissement, parce que justement, ça va permettre de diminuer son stress environnemental et ça va l'aider à prendre la sûreté, ça va l'aider à se sentir plus sûr dans son environnement. Mais je suis vraiment loin d'être une experte là-dedans, donc je vous invite plutôt à aller vers justement des professionnels de la médecine vétérinaire qui seront en bien meilleure mesure que moi de vous orienter par rapport à ça. Il y a un autre élément que j'ai pas mentionné dans les différentes stratégies pour aider à réduire le stress environnemental, et c'est d'avoir un safe space, si je peux encore une fois emprunter l'expression anglaise, ou un endroit sûr, un endroit sécuritaire pour le chien. Dans le fond, on veut que notre chien ait un endroit où il peut s'échapper dans la maison s'il est inconfortable ou s'il a peur de quelque chose. Par exemple, vous devez faire des travaux chez vous, il y a un plombier qui vient, ton chien aime pas les étrangers. Est-ce que ton chien a un endroit dans la maison où il peut aller pour se sentir en sécurité, pour se sentir en sûreté quand il y a des gens qui se présentent? Même chose, tu as des enfants, est-ce que ton chien a un endroit dans la maison où est-ce que lorsque les enfants commencent à lui tomber sur les nerfs, si je peux dire comme ça, il peut aller là puis il sait qu'à cet endroit-là, le chien ira pas, les enfants n'iront pas le déranger. C'est important, bien sûr, d'enseigner aux enfants que, bon, quand le chien est dans cet endroit-là, dans la maison, on le laisse tranquille, on s'en occupe pas. Donc, ça peut être une pièce dans la maison. Donc, par exemple, dans la salle de lavage. Quand le chien va dans la salle de lavage, on laisse le chien tranquille. Chez nous, c'est la cage de Taiga. Donc, pour nous, ça veut dire que quand Taiga va se coucher dans sa cage, on la laisse tranquille, on va pas mettre nos mains dans la cage pour essayer de la flatter ou pour quoi que ce soit. C'est vraiment cet endroit-là, c'est l'espace qui lui appartient, puis qu'elle sait que personne va venir la déranger quand elle va s'y installer. Ça revient beaucoup à ce que je disais dans l'épisode sur l'autonomie. On veut donner du contrôle à notre chien. Donc, dans ce cas-ci, bien, cette autonomie-là, de dire « je suis capable de me retirer d'une situation qui ne fait pas mon affaire pour aller dans un endroit que je sais que je vais être en paix », bien, ça donne de l'autonomie à notre chien, mais ça augmente également son sentiment de sécurité et de sûreté. Et il y a aussi toute l'idée de créer une routine avec son chien. Par contre, mon avis est un peu partagé pour ce qui est de la routine. La routine a plein de bénéfices, notamment, ben justement parce que c'est quelque chose qui est prévisible, donc c'est sécurisant pour le chien, il sait ce qui va se passer, il n'y en a pas de souci. Par contre, quand on tombe avec une routine trop rigide ou que notre chien devient trop rigide par rapport à notre routine, ben là, on peut avoir des problèmes. Ça peut être des choses mineures comme simplement notre chien, ben là, si on l'a pas nourri à l'heure exacte qu'on le nourrit habituellement, ben là, il va japper, il va faire les 100 pas, par exemple. Ou ça pourrait potentiellement être plus grave que ça. Ça pourrait, si on a un chien qui est vraiment très, très, très anxieux, ça pourrait, par exemple, ça pourrait affecter son niveau d'anxiété général. Donc, pour moi, l'idée, c'est pas d'avoir une routine stricte et rigide avec notre chien, mais plutôt d'avoir des moyens de rendre le quotidien prévisible pour notre chien. Donc, moi, c'est vraiment la façon que je vois d'être capable d'interchanger les différents éléments de la routine. Donc, je nourris pas nécessairement mon chien toujours à la même heure fixe. Je ne la marche pas nécessairement toujours à la même heure de la journée. Mais elle a quand même des prédicteurs dans sa journée qui lui annoncent qu'est-ce qu'on va faire. Hein? Puis un prédicteur tout simple, ça peut être de, justement, ben je prends la laisse. Ça signifie, ben je prends le harnais de canicross. Ça signifie qu'on va aller prendre une longue marche. Si je prends la laisse, ben là, ça signifie qu'on fait seulement sortir dehors pour les besoins. Donc, on peut avoir justement des éléments comme ça qu'on peut réfléchir. Justement, je vous ramène à un autre épisode que j'ai réalisé dans la saison 1. Cette fois-là, c'était l'épisode sur l'anxiété de séparation avec Claudine Prudhomme, où on parlait de avoir un mot, quelque chose qu'on dit à notre chien quand on quitte. Par exemple, une des choses que je fais lorsque je quitte la maison, dépendamment de la durée où que je m'en vais, si je vais faire une petite course puis je reviens, ça sera pas long. Dis bye bye, je m'en vais, je reviens, ça sera pas long. Si je m'en vais généralement plus longtemps, là je vais dire bye bye, je vais travailler, bonne journée. Donc ces deux phrases-là prédisent à mon chien ce à quoi elle doit s'attendre. Soit c'est ben je vais être seule pendant une courte période de temps ou je vais être seule pendant une longue période de temps. Et le bye bye, je vais travailler. C'est parce que c'est souvent quand je vais travailler que je suis à l'extérieur de la maison longtemps. Mais si je dois aller à l'extérieur pour plusieurs heures, même si c'est pas pour le travail, je vais utiliser cette phrase-là quand même. Parce que c'est la phrase que j'ai commencé à utiliser en premier lieu, donc je la conserve tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est un moyen de mettre de la prédictabilité, je suis pas certaine si c'est vraiment un mot en français, dans le quotidien de mon chien, sans nécessairement qu'on ait une routine super stricte, super rigide. Puis justement, quand on parle de que les choses soient prévisibles, ben je vous ramène, il y a plein de liens dans cet épisode-ci avec des épisodes précédents, mais je vous ramène à l'épisode sur les soins coopératifs que j'ai fait avec Iris Castaigne. Et j'en ai parlé aussi dans l'épisode de cette saison-ci à propos de l'autonomie. Mais les soins coopératifs, c'est une façon de mettre de la sûreté, du prévisible dans le quotidien de notre chien parce que notre chien sait que, bon, je prends l'exemple avec Taiga. Moi, Taiga, il faut qu'elle soit couchée sur le côté avec la tête au sol. Si elle relève la tête, ça signifie pour moi que je dois arrêter. Donc, elle sait que si elle lève la tête, le soin de la coupe de griffes va cesser. Mais si elle repose la tête au sol, le soin va se poursuivre. Donc, ça lui donne du pouvoir et ça la fait sentir en sûreté. Et dans l'épisode de justement, je parlais d'autonomie. Je donnais l'exemple d'un dentiste. Est-ce que si on a un dentiste qui nous attache à la chaise et qui dit « je vais faire ce que j'ai à faire, là, peu importe, là, puis je vais te restreindre, mais la job va être faite » versus un dentiste qui dit « OK, si ça va pas, fais-moi signe, on va arrêter. » Quand tu seras prêt, recommence, bien, ça nous donne beaucoup plus d'autonomie. Bien, on va se sentir aussi beaucoup plus en sûreté avec ce dentiste-là parce que là, on se dit « Ah, oh, là, je suis pas stressée, ça va pas, tu sais, ça me fait peur le dentiste, là, au moins je vais être capable de dire d'arrêter. Ah, OK, ah, fou, ah, finalement, OK, c'est pas si pire. Ah, OK, ah, ben ça va bien. Ah, ben OK, j'aime pas tant ça, mais c'est tolérable. » Tandis que dans le premier cas, ben on va sûrement tomber en panique jusqu'à temps que, possiblement, on tombe dans l'impuissance acquise. Hein, je vous ramène à cette discussion-là. Donc, pour moi, la question de sûreté, de sécurité et de comment c'est relié à la prédiction, ben ça va beaucoup aussi avec... c'est intimement relié à cette idée-là d'autonomie, de contrôle sur son environnement. Puis quand on parle de méthode d'entraînement aussi, c'est pour ça que moi, personnellement, j'adhère aux méthodes d'entraînement dites positives et que pour moi, les outils aversifs comme le collier électrique, le collier étrangleur, le collier à pic ne sont pas des outils que j'utilise. Parce que pour moi, l'utilisation de ces outils-là me semble souvent imprévisible pour le chien. Et ça a pour conséquence de justement amoindrir le sentiment de sûreté du chien. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'en 2017, j'avais suivi une clinique avec Alexandra Curlin. Et oui, c'était une clinique sur les chevaux, mais il y avait une présentation. Alexandra a produit un DVD avec Jesús Rosales Ruiz, qui est professeur à l'Université de North Texas. Et c'était une présentation sur le signal empoisonné, ou le poison cue en anglais. Et cette présentation-là m'avait beaucoup marquée. Et je mettrai le lien vers le DVD si jamais vous êtes curieux. J'ai pas fait l'achat du DVD, mais je me souviens très bien de la présentation qui avait été faite lors de cette clinique. Et essentiellement, dans cette vidéo-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé un chien dans une salle. La salle était... le plancher de la salle était quadrillé avec, avec des lignes qui ont été placées au sol. Et il y avait un X sur lequel qui était la position de départ du chien. Et il y avait une personne qui était présente aussi à distance pour appeler le chien. Donc, dans la condition veine, ce qui se passait, c'est que le chien était sur son point de départ sur le X. Et quand la personne l'appelle, si le chien répondait et allait la rejoindre, on cliquait avec un clicker et on renforçait en offrant de la nourriture au chien. Si le chien ignorait l'appel de la personne, ben il n'y avait rien qui se passait. Dans la condition punir, et là, je ne sais pas si c'était volontaire ou non de l'appeler de cette façon-là, parce que punir en français, bon, ça a une signification bien précise, mais je ne sais pas, pour des anglophones, si c'est une coïncidence ou si c'était volontaire. Je n'ai jamais investigué à ce niveau-là. Mais dans la condition punir, on a le même setup. Donc, on a le plancher quadrillé, on a le point de départ qui est sur le X, on a la personne qui appelle le chien. La différence, c'est que le chien est tenu en laisse avec un harnais. Et lorsque le chien ignore l'appel, eh bien là, on va le corriger en tirant doucement sur la laisse pour venir placer le chien devant la personne. Et vraiment, je tiens à dire que c'est pas du tout violent là, à regarder. Là. On fait simplement tirer le chien doucement pour l'amener face à la personne. C'est quelque chose que on a tous déjà fait. Tirer doucement, je crois. Ben, en tout cas, je pense que tout le monde a déjà fait ça, mais tirer sur la laisse de notre chien pour l'amener avec nous. Donc, c'est vraiment pas une forme de correction sévère, là, on s'entend. Et comme dans la condition veine, ben, si le chien répond au signal de venir, ben là, on clique et on renforce. Et ce qu'on observe dans cette vidéo-là, c'est vraiment la différence dans le langage corporel du chien entre les deux conditions. Dans la condition veine, le chien retourne à son X immédiatement. Puis quand il est sur son X, il fait comme une petite danse, il piétine, puis il branle la queue, il a de l'air tout heureux. Parce qu'il a hâte que la séquence recommence. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Je peux pas... J'interprète, là, à ce point-ci. Je peux pas savoir exactement ce que le chien pense, mais son langage corporel, du moins, m'indique qu'il apprécie. Il apprécie l'exercice. Sous la condition punir, on voit que le chien, cette petite danse-là de sautiller des pattes, branler de la queue, elle n'est pas présente. Et le chien, lorsque la séquence est terminée, ne retourne pas immédiatement à son X. Il va se déplacer un peu aléatoirement dans la salle. Il n'y a pas vraiment l'enthousiasme. L'enthousiasme que le chien avait dans la condition précédente n'est plus présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir introduit la condition punir, donc où est-ce qu'on a corrigé le chien en le tirant doucement, ils ont arrêté. Ils ont dit « on va retourner à la condition veine, donc on va arrêter d'utiliser la correction ». Mais le langage corporel du chien n'a pas changé. Il est demeuré la même. Parce que, pour lui, c'est devenu imprévisible. Est-ce que je vais me faire cliquer et renforcer ou je vais plutôt me faire tirer? Pour lui, c'est pas clair qu'est-ce qui va se passer. Donc, son optimisme a diminué. C'est vraiment de la façon que je le comprends. Et ça me fait vraiment penser à... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais t'es au travail, puis t'as ton patron qui vient te dire « Viens me voir dans mon bureau quand la journée sera finie, faut qu'on se parle. » Si tu sais pas de quoi ton patron veut te parler, c'est sûr que ça va être stressant. Tu te demandes « Mon Dieu, est-ce qu'il veut m'annoncer qu'il me met à la porte ou il veut m'annoncer qui me donne une augmentation de salaire? » Ben pour moi, quand on utilise des méthodes balancées, donc quand on mélange le renforcement positif et les outils aversifs, ben pour moi, c'est un peu la même situation parce que le chien ne sait jamais est-ce que je vais me faire renforcer ou est-ce que je vais me faire punir. Le chien est pas capable de le prédire, donc ça crée du stress, ça crée de l'anxiété. Donc, c'est pourquoi, moi, personnellement, je choisis de travailler avec des méthodes dites positives parce que je veux que mes méthodes d'entraînement soient prévisibles pour mon chien, qu'il ne soit pas toujours en train de se questionner « Est-ce que je vais être renforcé ou est-ce que je vais être puni? » Tout ça, combiné à ce que j'ai présenté, justement, dans l'épisode sur l'autonomie. Donc, quand on est capable d'allier autonomie, sécurité, sûreté pour notre chien, bien, ça l'aide à, justement, accroître son optimisme et aussi à devenir plus indépendant. Donc, on a un chien qui va peut-être commencer d'abord, si on a un chien qui est anxieux ou un chien qui est craintif, qui va commencer à se sentir à l'aise d'abord dans la maison. Puis quand il voit que, wow, j'ai du contrôle dans la maison, puis je me sens bien ici, les choses sont prévisibles, mais il est capable, tranquillement, pas vite, d'étendre cette zone de confort-là pour que cette zone de confort-là devienne de plus en plus grande. Et c'est là que notre chien va devenir plus confiant envers lui-même, plus confiant envers l'environnement, plus confiant envers nous. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. J'aimerais ça savoir, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais dans ton quotidien qui, justement, aide ton chien à se sentir plus en sécurité, plus en sûreté? Si tu as envie de me le partager, ben tu peux me retrouver soit sur la page Facebook du podcast À comprendre son chien. Il y a le groupe Facebook également. Et je suis aussi maintenant sur Instagram à Barre-en-dessous Audrey, Barre-en-dessous Michel. Donc, j'ai bien hâte de lire ta réponse. Et si tu as des réflexions à me partager sur l'épisode aussi, c'est toujours bienvenu. Donc, à la semaine prochaine. Bye-bye!